Ben oui, sujet d'actualité aujourd'hui avec notre avocat Philippe Coderre de la firme La Pointe-Beaulieu, parce qu'on va parler d'absentéisme au travail, de congés de maladie. On est là-dedans, là, on est dans la période de l'année où il y a toutes sortes de virus qui circulent, sans parler des lendemains de veille de party de bureau. Salut Philippe.
Salut.
Première question, est-ce que la loi me permet de prendre une journée de congé au lendemain d'une gênante défaite de mon équipe de hockey?
Écoute, c'est une bonne question parce que j'aurais besoin moi-même de prendre de congé aujourd'hui, on s'entend.
Aïe, aïe,
mais
aïe.
Règle générale, là, si on parle plus d'absentéisme pour des raisons normales, disons, toi puis moi, je pense qu'on c'est quasiment un trouble là, qu'on a envers nos sénateurs.
Là. Ouais, c'est ça. Peut-être que si on allait voir un médecin, on aurait un billet aujourd'hui.
Pas probablement. Généralement, ça prend. On a droit à 26 semaines sur une période de 52 semaines. Donc, c'est quand même énorme. Là. C'est ce qui est prévu par la loi, c'est les normes du travail.
Là, les gens s'énervent dans les voitures. Là. C'est pas 26 semaines payées. Là. On s'en
non. À compter du 1er janvier, une modification va avoir droit à 2 journées payées. Donc, parmi là, ces 26 semaines-là, cela étant, c'est 26 semaines non payées. Donc, ça dépend vraiment de si vous avez des assurances collectives au bureau là, qui couvrent votre invalidité. Il y a de l'assurance chômage maladie aussi que vous pouvez prendre, mais c'est certain que c'est 26 semaines non payées.
Alors, à partir de janvier, il y aura, pour les entreprises où il n'y avait rien de prévu, pas de convention collective,
non.
À tout le moins 2 journées de maladie payées. C'est comme si on partait de là à partir
du 1er janvier exactement,
prochain.
Exactement.
OK. Si un employé dépasse le nombre de journées de maladie prévues par la loi, y arrive quoi, Philippe?
Mais là, c'est ça qui est dommage, dans le sens qu'on peut pas faire grand-chose en tant qu'employeur. Quelqu'un qui est véritablement malade, ça ne constitue pas nécessairement une cause de congédiement immédiate, automatique. La seule différence que ça va faire, il y a une couple de semaines, on a parlé des recours prévus par la loi sur les normes du travail. Un des recours, c'était les pratiques interdites, donc une sanction parce que quelqu'un exerce un droit. Si vous dépassez le 26 semaines, vous n'exercez plus un droit, vous dépassez ce qui est prévu par la loi, vous ne pouvez pas utiliser ce recours-là. Donc, vous ne pouvez pas déposer une plainte en disant « Mon employeur m'a congédié parce que je me suis absenté puis j'ai exercé un droit. » Ça ne fait plus partie de vos droits. En revanche, vous pourriez dire « J'ai été congédié de façon injustifiée. Ça fait plus que 2 ans que je travaille pour mon employeur. » Donc là, l'employeur doit quand même appuyer sa façon de faire.
Et qui aurait le fardeau de la preuve dans ce temps-là?
C'est toujours l'employeur qui a le fardeau de la preuve dans ces dossiers-là.
Bon. Un employé peut s'absenter combien de temps avant que son employeur, justement, soit légitimé, ait le droit de lui imposer une sanction?
Il faut faire la différence entre 2 types d'absentéisme. D'abord, il y a l'absentéisme que j'appelle fautif. Ça, c'est la personne qui colle malade le matin même, la personne qui s'absente sans jamais justifier ses absences. Il y a une étude qui est sortie, là, apparemment que c'est 52% des absences qui ne seraient pas liées à la maladie. Donc, c'est quand même il y a un gros... Les gens disent qu'ils sont malades, mais ils ne sont pas véritablement malades. Ça, c'est l'absentéisme qu'on veut contrôler. Et ça, il n'y a pas de question de temps. Là. C'est une faute quand on ment à son employeur pour justifier une absence. On peut sévir. Par contre, il y a aussi l'absentéisme qui est non fautif. Ça, c'est la personne vraiment là, est véritablement malade. Pour ces gens-là, en matière de jurisprudence, dans les us et coutumes du droit du travail, généralement, après 2 ans d'absence consécutive,
continue,
là, on peut commencer à se demander si la personne va revenir. Si la personne s'absente par batch là, de période, là, à ce moment-là, on va parler de taux d'absentéisme qui vont tourner autour de 20 % du temps sur une période de 3-4 ans, on fait une moyenne. Là, donc, cette personne-là, elle s'absente de... ça fait 20 % du temps qu'elle est absente depuis 3-4 ans.
Deux semaines sur 10, c'est pas là, mais sur une période de 2 ou 3 ans.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Pour ce type d'absentéisme-là, il faut vraiment regarder est-ce qu'il y a une possibilité que cette personne-là s'améliore ou qu'elle puisse, à court terme, revenir au travail. C'est ça le débat. Donc, quand on réalise, ça prend une preuve médicale du côté de l'employeur, là, quand on réalise que la personne, il n'est pas probable qu'elle puisse fournir une prestation de travail à court terme, ben, à ce moment-là, dans un avenir prévisible, on peut commencer à mettre fin à l'emploi. Ce qui est bien important, par contre, c'est de traiter cette situation-là avec l'employé et lui aviser que son absentéisme commence à être un problème. Peut-être qu'elle pourrait perdre son emploi si ça continue dans cette veine-là.
Bon, je me mets dans la peau d'un employeur. Un employé manque une journée, un bon employé. Tu ne vas pas habituellement exiger un billet du médecin pour une journée, mais quand est-ce qu'il peut commencer l'employeur à contrôler les absences en exigeant des billets du médecin?
Je vous dirais, là, ça prend vraiment des absences soit répétées ou chroniques. Ça prend la preuve ou une situation, un pattern, vraiment quelqu'un qui s'absente, comme je disais tantôt, l'exemple de la personne qui appelle tout le temps le matin pour dire « Ah, finalement, je ne file pas ». À ce moment-là, on peut demander des billets médicaux. Il faut faire attention, par contre. Hein. Les billets médicaux, il y en a beaucoup des biais de complaisance.
Ça vaut ce que ça vaut.
Ça vaut ce que ça vaut. Même les médecins, dans l'étude que je vous ai citée précédemment, même les médecins disent que, médicalement parlant, ça vaut pas grand-chose, ces biais-là. Là, parce qu'ils rencontrent les employés pendant 15 minutes. Quelqu'un dit que je souffre de stress,
ben oui,
donc je suis absent.
Je suis stressé, je file pas, je dors pas, j'ai toujours le goût de broyer. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui donner un billet. Est-ce qu'il a vraiment vérifié? Non.
Non, c'est ça. Donc, les biais médicaux, c'est important. Quand, bon, on est motif sérieux de penser que la personne ment, la personne a un pattern d'absentéisme assez élevé, ou j'ai des raisons de croire qu'elle n'est pas apte à travailler, ou elle me dit qu'elle est absente, mais moi, je connais pas ses limitations fonctionnelles, donc peut-être que je pourrais la mettre dans un autre poste qui serait possible. Donc, dans ce cas-là, des biais médicaux, ça peut être utile, et également de connaître le diagnostic dans ces situations-là.
Oui, le biais peut aider le patron à dire « OK, t'es pas apte à faire ton travail habituel, mais rentre quand même, on va te donner quelque chose de plus léger, mettons. »
Exactement.
Ça, c'est un exemple.
Exactement.
J'ai souvent entendu parler de la règle du 3 jours. Là. On n'exige pas de billets pour les 2 premières journées, mais dès qu'une 3e journée consécutive... on va demander un billet. Ça, c'est plus des politiques internes. C'est pas nécessairement la loi qui dit ça.
Non, c'est pas la loi. Donc, à cet effet-là, généralement, on va demander un billet pour une absence prolongée. Et là, c'est les employeurs qui déterminent c'est quoi qu'ils considèrent, eux, une absence prolongée. Il faut comprendre qu'un billet médical, c'est quand même une violation de la vie privée. Mais en revanche, l'employé a le devoir d'être au travail. Donc, on doit justifier cette absence-là. Là où il y a vraiment des débats et des enjeux, c'est quand l'employeur veut connaître le diagnostic. C'est là qu'il faut vraiment... On peut pas avoir une politique systématique où tu t'absentes plus que 3 jours. Moi, je dois savoir absolument ce que tu as.
Ouais.
Le biais médical peut suffire en disant « La personne va être absente de telle date à telle date. »
Il y a un respect de la vie privée là, qui est prévu dans la loi.
Sauf si on se trouve dans les situations que j'ai mentionnées précédemment.
Ouais. Et là, on parlait d'absence prolongée. Un employé qui s'absente pour plusieurs mois, revient au travail. Comment l'employeur peut-il s'assurer que cette personne-là est vraiment apte à reprendre son travail? Il peut contrôler ça, je présume,
oui,
Philippe?
On peut soumettre la personne à une expertise médicale par un médecin là, payé par l'employeur. Et si la personne refuse de se soumettre à cet examen-là, l'employeur peut dire « ben moi, je veux pas que tu reviennes au travail » ou « je considère ça comme de l'insubordination ». Quand quelqu'un s'absente, par exemple, pendant 6-7 mois, elle revient au travail 2 mois, elle serait absente pour 6-7 mois, ben là, c'est normal qu'à son retour, l'employeur dise « tu vas te soumettre à une expertise médicale, moi, je veux savoir si c'est raisonnable de penser que tu vas rester à ton poste pour un certain nombre de temps,
ouais,
là, je veux savoir
ouais.
ce
Alors,
que
ça fait partie de son droit de gestion,
Tout
ça.
À fait.
Il arrive quoi si le médecin de l'employeur et le médecin de l'employé ne disent pas la même chose, ont des opinions contraires et je te vois sourire, ça doit arriver quand même assez souvent. Il se passe quoi dans ce temps-là?
Ça arrive souvent. La bonne façon de faire pour un employeur, ce serait de soumettre le dossier à un autre médecin tiers. Ça serait la façon la plus prudente. Ou bien de soumettre l'évaluation du médecin de famille, par exemple, au premier médecin de l'employeur qui a rendu une décision ou qui a fait un diagnostic pour voir si les précisions apportées par le médecin changent quelque chose. Mais si vraiment les deux ne s'entendent pas, généralement, il faut donner préséance là, au médecin de famille, à mon avis. Là. On peut pas, si un médecin de famille dit que la personne est apte à travailler et là qu'il y a un médecin payé par l'employeur qui dit le contraire, on peut par contre communiquer avec ce médecin de famille-là pour poser des questions précises. OK, vous dites qu'elle est apte. Moi, j'ai un expert qui dit le contraire. Pouvez-vous expliquer tel aspect?
En principe, il connaît plus sa patiente ou son patient.
Exactement. Il faut faire attention aussi, hein, parce que ça, je l'ai vu, là. Il y a des médecins, je ne sais pas combien, qui ont de dossiers par année pour un employeur, mais...
Il y en a qui tournent les coins ronds?
J'ai déjà vu ça en pratique, vraiment.
Bon.
Là,
vraiment?
Oui.
Quelques conseils en terminant, Philippe?
Au niveau des employés, soyez conscients que vous, votre job, c'est d'être au travail. Donc, en partant, là, oui, vous avez le droit de vous absenter pour des raisons de maladie, des raisons médicales, mais prenez pas votre emploi pour acquis. Là. Vous pouvez pas penser que c'est le Far West. Là. Vous devez quand même aviser votre employeur. Vous devez être diligent là-dedans. Et pour les employeurs, c'est quand même d'être rigide, faire un suivi des absences. Pas être trop rude non plus, parce que sinon, ce que ça entraîne, ça, c'est du présentéisme. C'est-à-dire que si vous êtes trop rigide, les employés vont se présenter au travail.
Même
ils seront
si
pas
ont
efficaces.
La gastro.
C'est ça, exactement. On le voit.
Ils vont contaminer d'autres employés, c'est pas mieux.
C'est vraiment pas mieux. Et surtout, éliminer les facteurs qui peuvent justifier des taux d'absentéisme. Ça, c'est bien important. Puis ça, c'est quelque chose qui est négligé au niveau des employeurs souvent. Si vous avez tout le monde qui est malade, très souvent, surtout pour des raisons d'ordre psychologique, mais il y a peut-être des choses à vérifier à l'interne là, pour s'assurer que, de diminuer là, ce taux d'absentéisme.
Se mettre en mode prévention.
Tout à fait.
D'ailleurs, j'étais convaincu hier soir que j'étais en train de développer une gastro pendant le match de hockey, mais... Finalement, ça passe.
J'ai failli rater la chronique aujourd'hui.
J'étais pas plus de bonne humeur ce matin, Philippe, mais j'avais pas la gastro, donc je suis rentré au travail. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
À la semaine prochaine, on se reprend demain soir.
Oui, tout à fait.
On espère.
On espère, sinon on rentre pas vendredi. Merci.